This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffre, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier, réalisée par Lumna Daoudi. Cette année-là, donc 1925, voit l'aboutissement de la course au pouvoir de Benito Mussolini. L'Italie, comme l'Allemagne et comme certains autres pays d'Europe, se trouve en difficulté après la fin de la Première Guerre mondiale. La crise commence à se creuser, les difficultés donc économiques s'accroissent et le chômage inquiète fortement les différents gouvernements. En Italie, c'est du très particulier puisque c'est le roi qui fait l'unité de la botte italienne, puisque c'est un pays centralisé depuis peu de temps. Benito Mussolini est donc quelqu'un qui est né dans au siècle précédent, qui a fait la guerre et qui donc cristallise un peu l'ensemble des phénomènes éprouvés par la population italienne, c'est-à-dire le malheur de la défaite, les difficultés liées à l'économie, mais aussi une certaine difficulté aussi à être fier du pays. Donc on a à la fois des circonstances économiques et sociales compliquées et des poussées de nationalisme et de fierté liées à cette sensation et au patriotisme. Alors, ce qui va se passer va être terrible, puisque au moment, en 1925, le premier dictateur européen va voir le jour. Les choses vont, en 1925 même, vont se passer assez rapidement, et c'est au mois d'octobre, au cours de la conférence de Locarno, qui réunira Aristide Briand, Strisman, Chamberlain, Van den Velde et Mussolini, précisément, que les choses vont se préparer. Ce pacte de Locarno, puisque donc il y aura un traité qui sera pratiquement pas respecté, eh bien au cours de ce pacte, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Italie garantissent les frontières occidentales de l'Allemagne. Je précise que la France a quitté la Ruhr, que donc l'Allemagne a quasiment reconstitué son intégrité territoriale, donc les frontières occidentales de l'Allemagne, de la Belgique et de la France. La Tchécoslovaquie, quant à elle, signera un traité d'assistance militaire avec la France. C'est d'ailleurs ce traité qui, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, va jouer entre la France et la Tchécoslovaquie pour l'intervention un peu tardive de la France dans le conflit. Donc, à ce moment-là, Mussolini est l'homme fort qui agit en Europe. Et les choses viennent depuis très longtemps et on va voir comment la carrière de cet homme va se constituer à partir d'une vie, tout compte fait, très ordinaire.
Benito Mussolini, fils d'un forgeron et d'une institutrice, instituteur lui-même, Mussolini rejoint le Parti socialiste italien PSI, puis doit s'exiler pour avoir refusé de faire son service militaire. En 1932, il devient l'un des principaux chefs du PSI et dirige son journal La Venti. En octobre 1914, il se déclare favorable à l'entrée en guerre de l'Italie et fonde Il Popolo d'Italia, journal qui fait campagne sur ce thème. Engagé dans les troupes italiennes, il est blessé au combat en 1917. En créant les faisceaux de combat en 1919, il tente de concilier socialisme révolutionnaire et nationalisme exacerbé. Président du Conseil de 1922 à 1943, il transforme à partir de 1925 l'Italie en dictature et fait de l'État italien un État totalitaire. Il sert de modèle à Hitler, puis à d'autres dictateurs, et lance l'Italie en guerre en 1940. En avril 1945, il est capturé par des résistants et exécuté.
Voilà, donc la biographie de cet homme, un instituteur, somme toute quelqu'un que rien ne prédestinait en apparence à devenir ce qu'il est devenu, et qui est donc le premier, encore une fois, le premier dictateur européen, et ça se passe en 1925. Il va écarter le roi Victor Emmanuel et prendre tous les pouvoirs à ce moment-là, et à partir de là, 1925 pourrait être considéré comme la date du totalitarisme institutionnel en Europe à partir de l'Italie, puisqu'ensuite, évidemment, ce sera l'Allemagne et entre-temps, ce sera aussi l'Espagne. On va voir en détail comment, à partir de 1922 et jusqu'en 1925, comment Mussolini va prendre le pouvoir progressivement en influençant et en terrorisant les institutions italiennes.
Le 27 octobre 1922, 20 000 chemises noires, les miliciens du parti fasciste créé par Benito Mussolini, se lancent dans une marche sur Rome pour réclamer le pouvoir. Le refus du roi Victor Emmanuel III d'instaurer l'état de siège pour arrêter les fascistes qui convergent vers la capitale précipite la dissolution du gouvernement libéral. Deux jours plus tard, le roi fait appel à Mussolini et le nomme président du Conseil. Les fascistes triomphent et accèdent à la tête de l'État. La Grande Guerre de 14-18 avait laissé l'Italie ruinée dans une crise profonde. En réponse aux troubles sociaux et à la montée des socialistes, Mussolini a créé en 1919 les faisceaux de combat, des corps francs de vétérans et déçus de la guerre, pour exalter l'esprit national et faire le coup de force contre les syndicats et les mouvements ouvriers. Deux ans plus tard, il les rassemble dans le Parti national fasciste, mais n'obtient pas les succès électoraux escomptés en dépit du développement foudroyant de son mouvement. Mussolini engage alors une épreuve de force avec le régime qu'il menace d'un coup d'État. Le soutien tacite de la monarchie, du patronat et de l'Église, qui voit dans les fascistes le seul rempart contre les communistes et un soulèvement social, précipite sa prise du pouvoir. À la tête d'une large coalition de droite, le Duce joue d'abord le jeu parlementaire. Mais en 1924, le député et chef du Parti socialiste italien qui dénonce les manipulations et la violence fasciste est assassiné. Pour couper court aux protestations, Mussolini instaure un régime d'exception et interdit les partis politiques. La dictature et l'État totalitaire s'installent.
Voilà, et c'est ainsi qu'on peut qualifier l'année 1925 de tournant en Europe, puisqu'à partir de là, eh bien, les choses seront non pas simples, mais progressives et irrémédiables. Et peu à peu, l'ombre du fascisme va s'étendre sur l'ensemble des pays d'Europe. Alors, en cette année-là, en 1925, eh bien, la carrière d'un musicien d'exception, il s'agit de Louis Armstrong, prend un tournant exceptionnel. Il va prendre son autonomie, mais il fait quelques enregistrements derniers dans une formation qu'il a fait connaître. Il s'agit de la formation de Fletcher Anderson. Et le 29 mai 1925, à New York, il enregistre Sugarfoot Stomp.
Thank you.
Le Fletcher Anderson Orchestra, donc avec Louis Armstrong à la trompette, Joe Smith à la trompette également, Elmer Chambers aussi, Charlie Green au trombone, Buster Bailey à la clarinette, Don Redman au saxophone alto, Coleman Hawkins à la clarinette et au saxophone ténor, Fletcher Anderson lui-même au piano, Charlie Dixon au banjo, Bob Escudero au tuba et Kaiser Marshall à la batterie, enregistré donc le 29 mai 1925. Alors vivement incité, alors Louis Armstrong avait troqué la trompette, plutôt il avait abandonné le cornet pour jouer de la trompette et il ne se séparera plus d'ailleurs de cette trompette dans les enregistrements qu'il fera tout au long de sa carrière. Et donc, vivement incité par son ambitieuse et clairvoyante épouse, Lil Armstrong, Satchmo a rendu son tablier à King Oliver, avec lequel il a passé une grande partie de son début de carrière, pour enregistrer donc quelques séances avec Fletcher Anderson, orchestre très connu, qui joue au Roseland Ballroom de New York. Et c'est un orchestre qui tient le haut du pavé, qui est un orchestre considéré comme un orchestre raffiné, un orchestre de danse. Et donc, grâce à cet orchestre, eh bien, Louis Armstrong va être mieux considéré, il va acquérir une certaine notoriété. Mais arrivé à la fin octobre 1924, il quittera l'orchestre en novembre de 1925, après avoir gravé en cette compagnie plus d'une quarantaine de titres. Il faut dire qu'à cette époque, on ne chômait pas. Et donc, après le passage chez Fletcher Anderson, eh bien, Louis Armstrong va créer sa formation, la formation avec laquelle il changera les musiciens, mais la formation dans sa structure ne changera plus. Ce sera le Hot Five, le fameux un des Hot Five, puisqu'il y en aura plusieurs. Et là, dans l'enregistrement qu'on va entendre, enregistré en novembre donc, de la même année, 1925, à Chicago, eh bien, Louis Armstrong y joue en compagnie de Kidori au trombone, Johnny Dodds à la clarinette, Lillian Harding Armstrong, son épouse, au piano, John Saint-Cyr au banjo, et il nous joue « My Heart ». De Louis Armstrong. Alors, il est un autre musicien qui joue aussi de la trompette, mais lui, il est blanc. Il s'agit de Bix Beiderbecke. Et ce musicien, en 1925, commence à connaître une réelle notoriété. Il a enregistré tout au long de 1924 avec un groupe appelé les Wolverines. Et donc, grâce au disque du Wolverine Orchestra, Bix va jouir de plus en plus d'une bonne réputation dans le milieu des musiciens. Et il commence à être très largement connu par le public. En janvier 1925, il forme un quintet avec Don Murray, Tommy Dorsey, Paul Merz, Tommy Gargano. Ça s'appelle le Bix Beiderbecke and his Rhythm Junglers, avec lequel il enregistre sa première composition personnelle, Davenport Blues, qui deviendra l'un de ses thèmes les plus célèbres et contribuera grandement à sa légende. Alors Bix Beiderbecke, sa difficulté à ce moment-là, c'est qu'il ne lit pas la musique. Et il est dans une formation qui, elle, dont les musiciens lisent tous la musique. Alors conscient de ses difficultés que lui cause son manque d'éducation musicale, malgré son talent et sa virtuosité à la trompette, eh bien Bix décide de s'inscrire à l'université d'Iowa pour un premier trimestre au printemps 1925. Il espère alors apprendre à lire la musique et à progresser dans la connaissance de l'harmonie et de l'écriture. Mais le cycle d'études qui l'entame lui impose d'être performant dans diverses autres matières, ce qu'il semble incapable de faire. Il faut dire qu'il a un tempérament assez ombrageux et que donc il a du mal à se couler dans une certaine discipline. Alors, il a un peu de mal à s'intégrer à ce milieu étudiantin de l'université d'Iowa. Et pour corser le tout, eh bien, il est impliqué dans une rixe dans un bar peu de temps après son admission. Ce qui fait que son passage à l'université ne durera que 18 jours. Alors à ce moment-là, il va un peu déçu, il va errer de groupe en groupe, d'abord à New York, où il fera quelques enregistrements, puis dans d'autres formations. Notamment, il jouera avec les frères Dorsey. Alors les frères Dorsey, Tommy et Jimmy Dorsey, ce sont ces frères-là qui quelques années plus tard, créeront un grand orchestre, un big band, qui aura un succès absolument incroyable avec, en jouant des morceaux sur des bases rythmiques de boogie-woogie. Ils parcourront les États-Unis avec cet orchestre et ils feront danser toute l'Amérique durant les années 30-40. Donc Bix, lui, quant à lui, un peu quelques mal à se situer. Et donc cette année 25 va être à la fois l'année de la notoriété et en même temps l'année de grandes difficultés personnelles. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de l'enregistrement réalisé donc le 26 janvier 1925. C'est l'autre morceau qui fait duo avec le Davenport Blues. Il s'agit de Todin Blues. Todin Blues, donc un morceau, une composition de LaRocca et Shields par le Bix Beiderbecke and his Rhythm Juggler, enregistré donc le 26 janvier 1925, avant que Bix Beiderbecke ne s'inscrive malencontreusement à l'université. Alors cette année-là, eh bien, on voit bon nombre de musiciens, de chanteurs, d'instrumentistes apparaître, disparaître et bon nombre d'entre eux de talent. Je voudrais vous proposer un enregistrement d'une chanteuse que la postérité n'a pas retenue, en tout cas pas retenu son nom. Il s'agit de Dora Carr qui enregistre donc en 1925 avec un pianiste, avec Dave Davenport. Et elle enregistre une composition, Cow-Cow Blues, avec ce musicien qui fut son accompagnateur dans des spectacles de vaudeville au début des années 20. Davenport est un pianiste, sorte de pianiste de bar, de barrel houses, comme on disait, sorte de maison close du sud. Puis donc il s'est rendu à Chicago, puis New York, et c'est un pianiste qui figure en bonne place parmi les initiateurs de boogie-woogie. Pour plus de détails, on peut évidemment se lire pas mal de choses sur ce musicien dans un certain nombre de dictionnaires du jazz, mais vraiment pour spécialistes. Eh bien, ce pianiste, donc, Davenport et Dora Carr, ont enregistré donc, le 1er octobre 1925 ce Cocoa Blues. Dora Carr et Charles Davenport, enregistré le 1er octobre 1925. C'est un enregistrement en 78 tours qui, évidemment, a été repiqué, et cela s'entend. Deux musiciens qui n'ont pas démérité, mais que l'histoire a malheureusement oublié. Voilà, ainsi s'achève ce troisième épisode de l'année 1925. À suivre une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words,
allô,
ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.